Bon jouir, c'est Agathe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et ça y est, la musique du générique que vous aimez tant, eh bien, vous a fait peut-être frétiller le clitoris ou le bout du gland. En tout cas, c'est Bon Jouir qui commence et c'est maintenant. On remercie très chaleureusement nos métalleux d'avant. On les remercie, on leur presse un peu le kiki. On leur dit « Ah, c'était bien une heure et demie de métal de tout poil, mais maintenant c'est bon, hein ?» Il est l'heure de se mettre tous à poil sur Canal B. Bon Jouir, émission 141, c'est parti.
Bon Jouir
sur Canal B. Eh bien, bonsoir, Benjamin Béchler, comment allez-vous ?
Mais je vais très bien, Agathe, et vous-même ?
Mais fort bien, je vous remercie. Et puis,
Il y a un truc bizarre.
Il y a un truc bizarre, mais
c'est
qui...
C'est pas vraiment un truc, mais...
Merci.
Non, mais qui est avec nous aujourd'hui ? Mais bonjour Chloé.
Mais bonjour Agathe.
Comment allez-vous ?
Mais fort bien, je suis ravie d'être avec vous.
Eh bien nous on est ravis que Chloé soit de nouveau parmi nous.
Mais oui, tout à fait, la dernière fois c'était au printemps dernier.
Oui.
Donc allez écouter d'ailleurs les émissions en podcast, n'hésitez pas sur canalb.fr/bonjouir, vous retrouvez tous les bons jouirs de la Terre. Et puis des fois sur les plateformes d'écoute, mais ça dépend de la musique qu'on a choisie dans les émissions, parce que parfois eh bien, les plateformes... nous censure, c'est pas Jojo. Soi-disant qu'on n'aurait pas eu les droits pour passer la musique de la FIFA. Mais parce qu'en plus, on va devoir payer des droits à la FIFA. Faut pas déconner quand même. Hein. Mais bon, donc voilà, on est tous les trois pour ce dimanche ou bien ce lundi, si vous nous écoutez le lundi à 23h, sur Radio Boa. Et ce serait d'ailleurs une très bonne idée et je vais en profiter pour faire une dédicace. Voilà, parce qu'on ne le fait pas souvent, mais c'est bien. On va dédicacer, et oui, tous les trois, cette émission à Mathias, qui, entre autres très bons programmes de Canal B, écoute Bon Jouir depuis le Trégor. Voilà. Bonjour Mathias, bonsoir.
Salut Mathias.
Salut Mathias.
Cette émission, Mathias, elle est pour toi.
Oh, et elle va être chaud.
Alors ben moi, avant de démarrer les trucs chauds, je m'étais dit qu'on pourrait peut-être, et ça manque un peu dans Bon Jouir, parler inflation.
Ouch.
Hein ?
Ah ouais, quand même.
Bonne ambiance.
Ouais.
On n'était pas prêts, hein, je crois.
Non, ça vous dit pas ?
Pourquoi pas ?
Bah écoutez, c'est pas un sujet dont on entend trop parler dans les médias.
Non, c'est vrai, t'as raison.
C'est vrai que c'est...
Ça, elle est punaise.
Inflation, ça pourrait faire penser aussi à renflement.
Eh ben voilà, tout à fait. Inflation, donc renflement, absolument, augmentation.
Gonflement,
et peut-être que augmentation, c'est des fois pas une mauvaise nouvelle.
Voilà, voilà.
Allez, micro-pénis.
Bah oui, absolument. Alors, l'augmentation des prix, évidemment, parce que si on parle d'inflation, on parle de prix. Alors, là, on sait que... Je sais, vous dites, ouf, là, elle rame un peu, mais vous allez voir, ça va...
Non, vas-y, je te regarde.
Je veux bien. Ils me regardent, si vous voyez leurs yeux, genre... tu fais la maligne vas-y, derrière ta grosse bonnette, mais... J'ai un peu chaud, c'est vrai. Et c'est pas... Bon, enfin... Donc, augmentation, c'est pas forcément synonyme de plaisir. On le voit toutes et tous hein, dans nos porte-monnaies et à la peut-être moitié du mois sur notre compte bancaire. Mais d'une manière générale... La question que j'ai envie de vous poser ce soir, les courses sont-elles synonymes de plaisir ? D'une manière générale, est-ce que c'est plaisant de faire ces courses ?
C'est une question rhétorique.
Ça peut l'être. Moi, je dirais que ça dépend.
Une bonne réponse de Normand.
Yes, camarade.
Alors, que vous fassiez partie de l'équipe livraison à domicile, Uber Eats, par exemple, ou Drive, je dois vous faire une révélation, vous passez à côté du véritable plaisir de faire ses courses. Car oui, il en existe un. Et attention, le scoop va vous en être révélé ce soir dans l'émission. C'est quoi, vous pensez, ce plaisir ?
Tâter de l'avocat ?
Eh ben voilà, bah oui, bien sûr. Les amateurs de marché, d'ailleurs, hein, sont tout à fait les plus grands pratiquants de ce grand plaisir. Mmh. Effectivement, c'est donc le palpage de fruits et légumes. Et ça, vous en connaissez quelque chose, Benjamin Bechler ?
Oui, tout à fait.
Ouais, je m'attendais à ce qu'il y ait un
développement. Il est bien avec nous, Benjamin.
Ah, vous dites ça parce que je vends des légumes le samedi matin sur un marché.
Ou c'est bah, vous voyez en tout cas des gens palpés.
Ah, je vois des gens palpés. Et moi, je dirais même plus, on ne fait pas que palper parce qu'on sent aussi.
Alors, je vais tout
on
à fait.
On sent les melons pour voir s'ils
tous
sont
mûrs.
Tous
les sens sont réquisitionnés.
Hein. Exactement. Et bien, c'est là, en fait, où je voulais en venir. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour ceux qui font leurs courses en livraison à domicile ou via le drive, eh bien, en plus de participer peut-être à l'esclavage moderne, voilà, salut, bon dimanche. Vous manquez le palpé touché, qui est donc la, une grande spécialité française, paraît-il. La joie de pouvoir effectivement palper un avocat ou un kiwi. Ah, zut, il est trop mûr, mon doigt s'est enfoncé dans la pulpe, oh, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, de pouvoir faire sauter aussi un melon dans sa main et lui sentir le cul.
Ouais.
C'est pas tout le temps qu'on peut sentir le cul d'un melon et il n'y a là, attention, aucune référence.
Avec son consentement.
Non, oui. C'était, voilà. Le pouvoir, donc, de faire sauter ce petit melon dans son petit cul. Non.
Dans son petit cul.
On a perdu.
Donc, tous nos sens sont en éveil. Nos papilles s'excitent à l'idée du festin à venir.
Nos papilles ?
Nos papilles.
Ah,
non, excusez-moi. Les hormones du plaisir se réveillent au milieu du rayon fruits exotiques ou endives. Le pied total. Et regardez d'ailleurs la mine béate de certaines et certains au rayon primeur. Cette dame, par exemple, avec son concombre dressé dans la main qui en effleure son visage doucement, ne vous fait-elle pas soudain penser au mannequin des pages électroniques du catalogue
Mais
des trois Suisses de votre
carrément.
Enfance. Mais oui. Mmh. Oh, le beau vibromasseur pour visage, bien sûr. Ah, là, là.
Pour raffermir les chairs.
Mais oui, oui, oui. Les commerciaux étaient quand même très inventifs à cette époque. Mais cessons de faire la vieille conne, car les commerciaux d'aujourd'hui, je trouve, sont tout aussi inventifs, voire carrément 10 fois plus coquins. Levez le nez maintenant, vous êtes toujours au rayon primeur. Et regardez ce calicot qui pendouille au-dessus du rayon. Avec ces lettres vertes claires, que lisez-vous ? Eh bien, vous lisez, observez, sentez, goûtez. Voilà, donc c'est écrit là, en toutes lettres. Et le voici, le plus grand secret du plaisir des courses enfin révélé, car oui, je sais qu'on vous aviez peut-être oublié, mais c'était un peu l'idée de cette chronique. Voilà. Donc, il est tout content de lui, ce secret, il est là. Ouh, c'est moi, observez, goûtez, observez, sentez, goûtez. Les trois mots-clés du plaisir... du bon cul et de la baise, finalement. Les ingrédients d'une bonne recette de plaisir sexuel ainsi exhibée en plein supermarché. Eh bien, c'est peut-être même d'ailleurs l'un des préceptes fondateurs d'une bonne éducation sexuelle. Et on le trouve où ? À l'école ? Mais non ! Non, non, pas du tout. Au rayon, salade verte et champignons de Paris. C'est pas un peu l'allégorie de l'ironie de notre monde contemporain, ça ? Après avoir abêti les consommateurs pendant des décennies, on leur donne des leçons de survivalisme. Et oui, madame, tant que cela ne pue pas le pourri et que ça n'a pas un goût rance, vous pouvez le manger. Un peu comme la bite de votre mari, tout à fait. Le smegma n'a qu'à bien se tenir.
Non.
Il vit ses derniers hivers. Alors avant de vous débarrasser de votre partenaire, utilisez vos sens. Demandez-vous s'il est encore possible de le ou la consommer. C'est pas très joli dit comme ça.
Ça dépend de la saison. Hein.
Ouais.
Absolument. Mais en plus, avec les pénuries d'eau, d'électricité, à venir peut-être, l'inflation de 19% sur les produits d'hygiène, poussant de plus en plus de nos compatriotes à se passer de ces produits essentiels, des sens bien affûtés vous sauveront très certainement du papillomavirus ou autres désagréments de ce style. Le choix malin pour vivre bien. Eh oui, c'est un slogan d'une enseigne. Bon, et là, pour le coup, je vais passer à quelque chose d'un peu sérieux, parce qu'il ne faut pas déconner tout le temps non plus.
Papillomavirus et inflation, on était
c'était
déjà
assez là. Sérieux, je pense. Oui,
ouais, c'est vrai. Bon, je vais remettre une couche supplémentaire. Nous sommes en octobre.
Oui.
Voilà. Alors, salut. Allez, hop. Mais non, c'était pas l'info sérieuse. En octobre, qu'est-ce que c'est ? Octobre, c'est le mois...
Octobre rose ?
Oui, de prévention du cancer du sein. Alors, un petit conseil, palpez-vous les seins. Voilà. Et tant pis si vous n'y pensez qu'en faisant vos courses. Vous palpez d'une main la prune en face de vous et de l'autre votre nichon. Et puis après, on change de seins et de prune.
Oui, vous faites vous palper aussi.
Et exactement. Et à la moindre masse suspecte, allez consulter. Emmenez la prune avec vous si ça vous aide. Et pensez, pour vous motiver, à l'avenir des futures petites sœurs de la prune. Un cancer évité, c'est moins de produits chimiques utilisés et donc une planète préservée.
Et d'ailleurs, en parlant de prunes, oui. Messieurs, vous pouvez aussi vous palper oui. Les couilles.
Les pruneaux.
Ah, oui.
Et attention, le cancer du sein, ce n'est pas réservé qu'aux femmes.
Bien sûr.
Palpez-vous aussi le torse, messieurs. Bref, palpons-nous.
Palpons-nous.
Voilà.
J'ai envie de dire amen.
Palpons-nous vivants.
C'est joli. Oui, tout à fait. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On s'écoute une petite chanson?
Ah bah pourquoi pas.
Allez. Allez, alors moi je vous propose d'écouter une chanson de Rosemary. Est-ce que vous connaissez?
Pas du tout.
Non.
Bon bah voilà, eh ben salut. Ça s'appelle 2h du mat. Moi je la connaissais pas non plus, cette Rosemary, mais c'était quand j'ai fait les plans chaleur cet été. Alors ça fait hors contexte, c'est un peu bizarre comme phrase. Mais donc quand j'avais demandé à des gens de nous faire des playlists pour l'été.
Et vous faites ce que vous voulez de votre été, bien sûr.
Ouais.
On ne vous juge
pas. Chaleur. Si, un peu. On la juge.
On la... Bah, oui, forcément.
C'est vrai. Comme... Entre donc... nous, on l'appelle la chaudasse. Mais...
Ça faisait longtemps. Et ben voilà. Et ben donc, Rosemary, ça avait été un conseil musique qui avait été conseillé. C'est vraiment très intéressant comme formulation. Par Ose. Orgasme système error qui avait fait le premier plan chaleur cet été et je n'avais pas eu le temps de passer ce morceau, alors c'est Tipar.
2h du mat, la chaleur de la nuit m'oblige à l'insomnie. Je t'aperçois posté dans l'angle saillant en cyclope incandescent. Tu m'attends. Non, ce n'est pas l'infime parfum de nicotine qui me rapproche. C'est sûr, je m'étais promis de ne plus te revenir. J'ai menti. Toi qui fais tout pour que moi je devienne flou, je te porte à ma bouche, moi. Tu sois flou et loin de ma peau. vole en volute, ce sont tes dernières minutes, une fois pour toutes.
Voilà, c'était donc Rosie Marie avec la chanson 2 heures du mat, l'histoire donc d'une femme qui revient d'une soirée et qui a peut-être difficilement mis un terme à une relation toxique.
Bravo.
Bravo, bravo Rosie.
C'est On bien. Est avec toi.
Ouais, ouais carrément. Ouais. Big up.
Big up.
Bouge bien.
Sur Canal B.
Les fables de la Fontanelle. À quoi riment nos vies sexuelles ? Par Sophie Fontanelle, aux éditions Robert Laffont. La fable de la femme qui rêvait d'un peu de douceur. On ne parle jamais du cas des êtres les plus délicats. Or, Marilyn était douillette. Pas du tout une mauviette, mais certaines activités liées à la sexualité étaient au-dessus de ses forces. Des choses, elle aimait l'amorce. Qu'un baiser devienne un brasier, cela elle pouvait l'admettre. Mais la langue au fond du gosier, y a pas autre part où la mettre ? À peine cette phrase dite, un jour, les ennuis commencèrent. Cela tomba qu'un partenaire se mit à penser un peu vite. Mais où Marilyn la veut-elle, cette fichue langue, bordel ? Ailleurs ? Où donc ? Sur le derrière ? Il fit pivoter Marilyn et lui mit la langue à l'arrière, comme une très bonne copine. Or, ce n'était pas du tout ça que voulait dire Marilyn. Espérait un baiser. Où ça ? Bah là, autour de ses babines, qu'on puisse un peu se bécoter et se toucher avec les cils, mais sans se faire asticoter partout et par un imbécile. Sauf qu'à présent, c'était trop tard. Il y avait un nez sur son pétard, de la bave à de ses endroits. Le partenaire était en transe, ça aurait trop cassé l'ambiance de dire « Hey, mais tu fais quoi là ?» C'est pourquoi elle la boucla. Et puis cette langue, ma foi, était bien douce et elle osa « À ta main, tu as bien des doigts. » Et aussitôt, l'autre en usa. Il farfouilla dans Marilyn comme dans une gibecière. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Elle voulait qu'on la câline, quelques chatouilles clandestines, un index à la lisière d'eux, et que cela est un air de ne pas y toucher, mais tout en y touchant, bref, prendre le temps. Et c'était chaque fois pareil. On la détournait des merveilles. C'était fou, toutes ces méprises. On esquissait une fessée. Si elle se montrait ravie, l'autre lui cassait le pare-brise. C'est sûr, ça lui passait l'envie. Une fois, avec un Anglais, elle se vit presque étranglée. Elle essaya les femmes. Qui sait, je trouverai peut-être ici un peu plus de délicatesse. Je vous promets, mes pauvres fesses, que notre avenir s'éclaircit. Et quand elle fut dans le lit, elle se sentit très jolie. Les fessées étaient mesurées, les doigts savaient s'aventurer. La langue collait à l'idée, comme l'âme au vocabulaire, désir et réalisation. La vie est une aberration. Tandis que Marilyn était sur son nuage émancipée, sa compagne, elle, s'absentait et revenait tout équipée. Là, à sa taille, une ceinture, à la ceinture, un gros bazar. Au début, ça fait très bizarre, mais tu vas voir, c'est l'aventure. Et Marilyn est de nouveau secouée, bousculée, bravo. Maintenant, elle fait du yoga. Je veux limiter les dégâts. Benjamin, je crois que vous avez des choses à nous dire.
Oui, Agathe, vous avez raison.
Et alors... moi, je suis très hâteuse de les entendre. Alors là.
Eh bien, c'est parti pour une nouvelle polémique de l'été. Ah. Alors, je sais, on est en octobre, mais bon, il fait encore à peu près chaud. Oui. Donc, on va en profiter. Donc, cette fois, c'est aux États-Unis que ça se passe, et plus précisément à Los Angeles, en Californie, pour ceux qui, et celles qui ne sauraient pas où se trouve Los Angeles. Donc, Californie, c'est aux États-Unis.
Hein, ah ouais, merci.
Comme ça,
j'étais plus
je le redis, hein, ouais. Tout le monde est au courant. On y va, on avance. Alors, c'est pas un scandale de star hollywoodienne qui nous intéresse là, mais une phrase, une simple phrase dans un livre pour enfants.
Mais les livres, c'est dangereux finalement. Hein.
Et les oui, j'allais aussi, dire hein, que ouais. Décidément, les enfants et les polémiques, c'est la dernière mode. Alors, venons-en au fait. The Great Big Book of Families. Traduit par le grand grand livre des familles, est un livre d'images pour enfants qui présente toutes sortes de familles existantes. Il contient notamment cette fameuse phrase Les familles peuvent aussi avoir deux parents qui sont mères ou deux parents qui sont pères. Et là, gros tollé de la part d'un groupe radical qui s'insurge et veut faire interdire le livre. Mais une voix va s'élever pour protester contre cette censure et c'est celle de Jackie Goldberg, présidente du conseil du district scolaire unifié de Los Angeles. Elle rappelle dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avoir elle-même lu ce livre à des enfants qui avaient partagé avec elle le fait que leur famille était différente. Elle souligne les libertés dont disposent les parents de son district scolaire. Elle explique que si les parents ont tout à fait le droit d'empêcher leurs enfants d'assister à toute assemblée qui ne correspond pas à leurs valeurs, les études et sondages montrent quand même que les interdictions de lecture ne sont pas populaires. Parce que les parents de tout le spectre politique veulent avoir la liberté de choisir ce que leurs enfants peuvent lire et que personne d'autre ne devrait prendre cette décision à leur place. Vous n'aimez pas un livre, ne le lisez pas. C'est aussi simple que ça. Et elle finit son allocution par cette phrase, cette simple phrase. La peur n'est pas notre ami, l'amour l'est.
It made them afraid! How dare you make them afraid because you are! I'm sorry. I told you this was personal. I went through with this. My son was harassed because he had two mommies. But my grandchildren aren't. That's progress. But I say to all of you, nobody in this district will ever, ever sexualize any kid for any reason, in any classroom, in any way, shape, or form. And those of you who believe that this might happen are allowed to read the curriculum materials, are invited into the assemblies with your children, are invited not to have your children go to the assemblies. I do not believe in forcing a parent to have a child attend assembly that they feel would be violating their values. That's fine with me. We don't all have to agree. In fact, none of us all agree.
Ah bah oui, tellement. Merci Jackie Goldberg.
Mais oui.
On l'aime. Enfin,
Alors, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais en tout cas, elle est très passionnée et très très en colère également. Et franchement, vous pouvez la trouver sur Instagram, sur TikTok. Je vous conseille de regarder.
Mais oui.
C'est, okay. Ça, ça motive, ça, ça donne envie de s'embraser et d'aller rendre une petite visite à ce cher Darmanin, hein, qui, qui est notre censure à nous, n'est-ce pas?
Ben oui, mais c'est quand même fou, hein. C'est compliqué en fait pour des parents de lâcher prise un peu, non pas sur l'éducation de leurs enfants, on leur demande pas ça, mais sur l'ouverture d'esprit, la curiosité, le fait que peut-être leurs enfants puissent avoir aussi et développer des opinions qui ne seront pas forcément les leurs. Voilà, ce ne sont pas des mini-eux, mais ce sont des personnalités en construction et en ayant un champ de connaissances, enfin voilà, de curiosité vers d'autres sujets, et ben on peut se définir nous-mêmes personnellement. C'est assez flippant, je trouve, en fait, de se dire que les parents ont vraiment pas du tout cette possibilité d'ouverture.
Ouais, c'est ça. Ben, vous avez des convictions, c'est très bien, mais vous pouvez aussi les mettre de temps en temps de côté et laisser votre enfant décider de ce qu'il a envie de découvrir et de ce qu'il deviendra plus tard aussi.
Ben, c'est ça, et puis en plus c'est pas parce que leur modèle à eux c'est celui-là que leur enfant doit ignorer que d'autres modèles existent ailleurs et que le monde est plus riche que ça et diversifié.
Tout à fait.
Voilà, c'est quand même assez foufou. Donc si vous êtes des parents comme ça, éteignez tout de suite la radio, on ne veut pas ça. Hein, voilà, parce que bon jouir, c'est pas du tout le truc de dire il n'y a qu'une façon de faire l'amour, c'est papa dans maman et c'est le samedi à 23h30.
Voilà.
Non. Il y a tellement de milliers de façons de faire l'amour et de monter. Comment monte? Je voulais pas dire ça.
Comment
monter la grand-mère
un samedi par mois?
Je voulais dire de créer des familles ou pas d'ailleurs. Enfin bon. Mais la sexualité est un peu aussi à la base de être à la base de tout ça. Donc non, si vous êtes plutôt pro papa dans maman le samedi à 23h30 et puis rendez-vous le mois prochain, au revoir.
Bref, pour conclure, mais foutez-nous la paix.
Ouais, c'est ça. Oui. Laissez-nous un peu faire comme on veut.
Bonjour.
Sur Canal B.
Eh bien, toujours à propos de livres.
Oui.
Ding dong, ah ben, j'entends une sonnerie. Bah alors, qu'est-ce que c'est?
Eh ben, c'est l'heure de la lecture.
Ah ben voilà. Alors installez-vous bien. Et qu'est-ce qu'on va lire d'ailleurs, Benjamin Bechler?
On lit Bien trop petit de Manu Kos.
Ah bah oui. Oui. Il est publié chez qui déjà?
Aux éditions Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur.
Allons-y.
Max et Grogir et le dernier combat. Partie 1. Récit Greg Litt. Nous allons mourir, Max, murmura Chloé Rembrandt. Ses lèvres fines tremblotaient et une mèche de sa chevelure blonde masquait son regard. Pourtant, il n'y avait pas de crainte dans sa voix. Juste une certitude de la résignation. Max et Grogir se redressa de toute sa taille. Sa longue cape de cuir et son chapeau à large bord dissimulaient en partie son visage, mais pas l'éclat de ses yeux, dans lesquels se reflétait la lueur des étoiles. Il posa une main protectrice sur l'épaule de sa compagne. Elle frémit au contact de sa peau, sentant une chaleur irradier dans sa poitrine. « Il tire trop, nous ne risquons rien », affirma-t-il posément. Les balles sifflaient, traçant des sillons enflammés dans la nuit. Au-dessus d'eux se dressait la haute silhouette du donjon noir. « Ceux qui t'ont fait du mal vont mourir ce soir », conclut-il. « Tu seras vengé. » C'était la promesse qu'il avait faite à Chloé devant la dépouille de ses pauvres parents, lâchement assassinés par le vil comte de Kernouillac. Chloé saisit la main posée sur son épaule et y posa ses lèvres délicates. Elle serra les doigts puissants dans les siens, comme si elle ne devait jamais les laisser partir. « Nous pouvons peut-être nous enfuir », soupira-t-elle. Il la regarda avec surprise. Jamais dans toutes ces années passées ensemble, elle n'avait suggéré une telle chose. Pour Max et Grogir et Chloé Rembrandt, la fuite n'était pas une option. Ils se battaient toujours jusqu'à la mort. On les surnommait les brigands de cœur, car s'ils étaient sans pitié avec les nobles et les méchants, ils donnaient tout leur bien aux pauvres. Ce soir, c'était au pire de toute la racaille à l'infâme baron de Kernouillac qu'ils s'attaquaient. « Je le tuerai, » gronda Max. « Je lui passerai ma lame dans le ventre et je le regarderai mourir sous mes yeux. » Ensuite, Chloé, vous reprendrez les terres qui sont les vôtres, et vous rendrez la liberté et la justice aux paysans qui les peuplent. La jeune femme ne répondit rien. Mais elle le regarda, les yeux brillants. Comment son protecteur aurait-il pu deviner que reprendre son titre et son château n'intéressait guère la jeune femme? Qu'à force de grandir près de cet homme au visage balafré, inflexible, austère et pourtant juste, elle avait fini par concevoir pour lui une énorme affection, qui ressemblait de plus en plus à un amour sincère. La main du héros retomba. Un instant, elle faillit la reprendre et la porter à son cœur palpitant, sous les globes de marbre de sa poitrine. Mais déjà, l'homme à l'épée bondissait hors de leur cachette sous les douves. « Attendez-moi ici, » ordonna-t-il à Chloé. Malgré les balles qui sifflaient au-dessus de lui, il se fondit dans la nuit noire.
Et vous êtes fier de vous, mon petit.
Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Merci pour cette lecture.
Mais je vous en prie, c'est toujours un plaisir.
Bah, écoutez, vraiment partagé. Et à propos de plaisir et de partage et de... Ah, bah, et de petit, tiens. Oh, voilà une transition bien trouvée. Mais Chloé, dites-moi, il me semble que vous avez un mot au bord des lèvres cette semaine.
Eh bien oui. Vous m'avez proposé le mot « petit », chère Agathe. Alors, j'ai d'abord pensé à l'enfance, puis à des choses qui n'ont absolument rien à voir ensemble, comme le petit déjeuner, le petit Nicolas, petit bambou, petit poney, Emmanuel, petit, le petit prince, petit ours brun. Alors, rien à voir avec le renflement de Bruno, hein, s'il vous plaît. Non. Tape, tape dans tes mains, petit ours, bien. Rien à voir. Oui, donc ça, je l'ai déjà dit. Le petit suisse, le petit ami. Alors, je me suis questionnée, pourquoi dit-on « petit ami » ? Un amour, est-il un ami, mais en un peu réduit, parce que quand même, faut pas déconner. Est-ce que je peux dire mon grand ami pour parler de mon mec? Qui va m'interdire de police? Itsy bitsy teeny weeny tout petit mini le kiki. Gérald préfère sans. Gérald en était sûr. Gérald a dit sans sûr. Comme quoi, les petits kiki ont encore la vie dure. Même dans un livre. Et c'est triste. Et c'est rétro-pédalant. Rétro tient le volant parce que Gérald dit stop. Hein. Gérald dit eh oh, hein. Demi-tour. Non à l'apprentissage des sexes et des corps pour les plus petits d'entre nous. C'est dommage, mais c'est admis, hein, il semblerait. C'est petit. Moi aujourd'hui j'en ai rien à secouer, hein, je balance. Le mini est dans plein de dictons, je veux courber la tendance avec le petit et le long. Qui d'abord peut déterminer la taille de ce qui nous touche, de ce que l'on sent, ressent, écoute. Ce qui est anodin pour toi peut à moi me sembler gigantesque. Alors voilà, si plutôt que de rêver grand, on s'autorisait à voir les choses en petit. Observons ce qu'on ne voit presque pas à l'œil nu, je veux dire cet œil habitué, là, celui qui avance tête baissée alors que tête baissée, ben, on voit franchement que dalle. Considérons les petits gestes autant que les grands élans. Alors je ne parle pas de l'animal, Agathe, hein, suivez un peu. J'entends ici ce qu'on pourrait considérer comme grandes envolées, par exemple, au détriment d'infimes délicatesses prudentes et pudiques. Les petites attentions, les petits mots, les petits regards, les petits silences qui peuvent justement en dire long, les petites victoires, les petits sauts, les petits temps entre les gens, entre les instants, entre les baisers, entre les déplacements, les petits sourires, et non les petites souris, elle gâte toujours pas, qu'est-ce que vous avez avec les animaux, c'est ça? Ces infimes précautions, animations et contemplations à portée de notre quotidien, qui, une à une peut-être, hein, pourraient en former une toujours plus discrète, mais néanmoins considérable, comme, je sais pas, un feu de cheminée à soi, quoi, secret, chaud, réconfortant. Alors attention, le petit a son versant pervers. Le petit peut être considérablement relou. Ce n'est pas la taille qui détermine l'encombrement. Il y a plein d'exemples. Un caillou, voilà, c'est plutôt ridicule, un caillou, mais quand il est dans ta chouse et que tu cours pour choper le bus 112, un Nicolas Sarkozy, bon, c'est pas bien grand, pourtant les conséquences sont quand même considérables. Hein, les punaises de lit, c'est pareil. Et n'oublions pas notre très cher Adrien IV, élu pape en 1154, avant de tragiquement clamser en avalant une mouche. Voilà, bon, ne sous-estimons pas. Ouais. Ouais, ouais. Le petit, les amis, le petit est grand, chers frères et sœurs, on se croirait un peu dans le jour du Seigneur, excusez-moi, des formations dominicales, mais vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on pourrait apprécier le minuscule pour qu'il devienne chaud monticule. Watcha, Chloé, t'as consommé des trucs pendant l'été? Oui, j'ai ingurgité plein, mais alors plein de toutes petites choses observables et perceptibles grâce au temps de l'émerveillement, j'en sais rien, le temps où on a le temps, quoi. Et ne dit-on pas d'ailleurs, quand le petit va, tout va? Non, on le dit pas. Non. Alors manger, renifler, sucer, regarder du petit à toutes les sauces, chers auditeurs. Il y a dans les toutes petites choses de nos vies, j'en suis sûre, de grandes doses de jolies, c'est promis. Voilà, pour le mot petit que vous m'avez livré.
Merci infiniment, Chloé.
Mais je vous en prie.
C'est beau de découvrir tout un univers derrière P-E-T-I-T, 5 lettres.
Oui, oui, oui.
Et ne dit-on pas tout ce qui est petit et mignon?
Mais oui,
paraît-il. Oh, tout à fait.
Paraît-il. Oui.
Les fables de la fontanelle. À quoi riment nos vies sexuelles? Par Sophie Fontanelle, aux éditions Robert Laffont.
La fable de l'homme qui saoulait tout le monde avec ses clichés. Adam, que vous verrez ce soir, jadis avait une marotte. Il aimait raconter l'histoire de quand nous vivions dans des grottes. « La femme cuisait des aurochs, » disait Adam. « Ça, c'est prouvé. » Et l'homme, il la fichait en cloque. Les rôles étaient tout trouvés. La femme restait au foyer, l'homme chassait, tout outillé. Cette propension pour la chasse qu'avaient les hommes des cavernes, et moi, j'en retrouve la trace, car je suis un chasseur moderne. Un chasseur, c'était la meilleure, lui qui d'une abeille avait peur. Mais il faisait si bien l'esthète, on ne voulait pas qu'il s'arrête. Et il reprenait son élan. La théorie du frigidaire, vous connaissez? Nous, en cœur, non! Un homme ouvre son frigidaire, ne voit pas le paquet de beurre. Pourquoi? Nous, il est ailleurs? Lui, non, le beurre est à sa place. Mais l'homme, un détail le tracasse. Le mâle ne peut pas s'en tenir à regarder bien au milieu. Un chasseur fait aller ses yeux à droite, à gauche, aller, venir. Des fois qu'une bête sauvage viendrait rôder dans les parages. La femme ne voit pas tout cela. Elle voit le beurre qui est là. C'est pour ça qu'elle est bien meilleure à ranger la maison, d'ailleurs. Et il était capable ainsi de faire de ces raccourcis. Autre exemple, la fidélité. Peut-être l'homme est infidèle. S'il l'est, c'est par humanité. Sa semence, elle est essentielle, car l'homme a la mission sur Terre de perpétuer notre espèce. Cela prend 9 mois d'enfanter, tandis qu'un homme peut planter 1000 graines et ainsi offrir au genre humain un avenir. L'infidèle est un bienfaiteur. On l'aurait écouté des heures. Mais un jour, comme un idiot, c'était son destin quelque part, il alluma la radio. Et par le plus grand des hasards, tomba sur une conférence, un cours au Collège de France. On y entendait une femme, professeure de préhistoire. Qu'est-ce qu'elle disait, la dame ? Rien qu'Adam n'eût voulu savoir. Elle s'appelait Ève et, aïe, dans son cours faisait le détail de ce fameux âge de pierre que notre Adam pensait connaître. Ève annonçait « L'art dit les êtres, et l'art de ces humains d'hier ne montre jamais d'ascendant d'un sexe vraiment sur un autre. Au contraire, on a partout, dans la représentation de l'autre, un très profond respect. Ces hommes et ces femmes étaient égaux, en tout, et même en force, comme le montrent de récents travaux. » Elle développa ce point. Le soir, il nous prit à témoin. « C'est quoi cette universitaire qui ne connaît pas les frigidaires ? Elle est dingo, cette belette ! Faudrait que quelqu'un lui remette l'église au milieu du village. On va lui faire un démenti. » Mais il lut sur notre visage que ce n'était pas garanti. Il comprit que nous, ses amis, on pensait la femme géniale, même au temps de Néandertal. Depuis, il ne s'en est pas remis. Merde, était-il du bon côté avec ses couilles surcotées ? La morale, une idée reçue, un beau jour, vous fait mal au cul.
Alors, pendant que nous sommes en train de parler de livres,
oui.
J'ai envie de parler d'un autre livre.
Décidément, ils sont partout.
En fait, on est presque plus une émission littéraire qu'une émission sexuelle. Eh oui, qu'est-ce que vous laissez comme ça ? On jouit par les livres. Envoyez-nous des sextoys, après tout, si vous voulez qu'on fasse des tests de sextoys et que vous êtes une marque de sextoys, vous pouvez en envoyer, on en parlera autant que des livres.
Mais oui, ouais. Mais écoutez, on peut enregistrer l'émission en essayant des sextoys, c'est possible.
On peut lire, tout est possible.
Mais oui, mais tu sais, comme dans le Hysterical Literature, t'avais vu ces vidéos ?
Non.
Des femmes qui sont en train de lire, elles font de la lecture à voix haute, mais elles ont un sextoy dans le vagin.
Incroyable.
Wow.
Et d'abord, ça se passe très très bien. Et puis évidemment qu'au bout d'un moment, ça commence à
devenir
compliqué.
Elles ont un peu
compliqué.
Du mal à lire au bout d'un moment, non ?
C'est génial. On pourrait faire ça. D'ailleurs, à propos de femmes, là, on va parler d'un livre magnifique. Alors ça s'appelle, j'ai découvert ça, A Coffee Table Book. Donc si vous n'avez pas de coffee table, vous êtes mal, ou une tea table book, peut-être ça marche, mais c'est rigolo, c'est un beau livre. C'est la catégorie des beaux livres qu'on pose comme ça sur sa table basse. Comme ça, les gens qu'on reçoit peuvent les feuilleter, peuvent en profiter. Et puis parce que aussi, quand on a des beaux livres comme ça avec des belles photos, on a aussi envie, négligemment, un petit peu allongé en méridienne sur son canapé, de regarder des petites photos. Et là, en l'occurrence, je vois que vous... les photos sont vraiment très belles et très suggestives, voire carrément érotiques. Ce livre s'appelle « La Terre vue du ciel ». Mais non ! Je me suis souvent caressée, sur la terre vue du ciel.
Ouais, merci Yann Arthus.
Ouais, Yann Arthus en plus, tellement...
Yann Arthus... Blague, mais...
Yann Prépus, non.
Anus Bertrand.
Non, mais là, on va justement... C'est carrément à l'opposé de tout ça et c'est tellement autre chose. Ce livre s'appelle Hold Up 21. Alors, on peut se dire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 20 autrices qui braquent la littérature érotique sous le regard de la photographe Abigail Auperin. Donc c'est un livre avec 20 nouvelles illustrées, il y a 300 pages de texte et 100 photos. Et en fait, les textes sont écrits par des femmes, donc des femmes qui sont autrices, réalisatrices, poétesses, journalistes, dramaturges, comédiennes, metteuses en scène, danseuses, bref, des femmes, qui mettent à l'honneur le désir et le plaisir dans la discussion féministe. Donc ces nouvelles, c'est bien sûr 20 histoires de jouissance, d'expériences rares, de chemins détournés qui touchent, excitent, provoquent, choquent, émeuvent, libèrent, transforment et réparent. et une photographe a interprété leurs mots en 100 tableaux. Et donc, c'est un vrai cheminement, en fait, à la fois dans l'imaginaire de cette photographe, mais aussi au travers, il y a les rebonds comme ça entre les nouvelles et cet imaginaire sur papier glacé. Et on n'est pas loin, je dirais, dans l'esthétique presque d'une Cindy Sherman, puisque les modèles, entre autres, sont les autrices elles-mêmes, qui sont mises en scène de façon quand même très étonnante. Il y a un petit côté mannequin froid et glacé, pose un peu dans la stupeur, peut-être aussi du désir, de la jouissance, ou quelque chose d'un peu arrêté comme ça, mais qui est très beau et très suggestif aussi, de par le fait que finalement ces corps un peu comme en pause nous semblent peut-être nous permettre, en tout cas nous, de fantasmer des choses et d'apporter nous-mêmes notre imaginaire. C'est un très beau travail. D'ailleurs, ce livre, donc, qui fait quand même, je sais plus, 300 pages, 400 pages, quoi, c'est un bon gros livre. Mais les nouvelles vont paraître en format poche en 2024 chez J'ai lu. Et puis, si vous voulez aller voir les photos, vous pouvez aussi aller à la galerie C-S2E à Paris, entre le 15 octobre et le 31 décembre, et vous pourrez voir toutes ces photos exposées. Il va y avoir une collection d'audiobooks, un projet d'adaptation théâtrale et de séries aussi. Et semblerait-il que ce soit un rendez-vous annuel et que d'autres autrices seront invitées en 2024 pour un autre recueil. C'est vraiment... donc là, je ne vous ai pas dit qui, en fait, avait écrit. Eh bien, il y a... je vais vous faire une petite liste comme ça. Romy Alizé, dont on avait parlé dans l'émission de la rentrée avec la référence à Charlotte Perriand et le fait de se présenter et s'offrir seins nus à la montagne. Voilà, qui est notamment travailleuse du sexe, performeuse, etc., photographe aussi. Irma Bassalane, Virginie Bégaudeau, bon, tous les noms vous diront peut-être pas quelque chose. Manon Buzelli, Alexandra Sismondi, Maïmouna Koulibaly, Camille Emmanuel, Olympe Degé, Laure Giaposoni, pardon, Alice Groult, Clémence Longhi, Marilyn Mattei, Maya Mazorette, Nicole Mercé-Ortega, Aïna Raïri, Axel de Sade, qui est dominatrice professionnelle, Chloé Safi, Mylène Tournier, Anne Vassivière, Pauline Verdusier. Voilà, des femmes qui viennent évidemment d'horizons très différents et qui ont des styles très différents. Et il y a quand même toujours un peu de malice et d'humour, parce que peut-être que quand on parle de sexualité, on parle aussi de ça, d'un petit second degré ou d'une petite liberté à regarder des sujets qui pourraient être un peu choquants, qui tout d'un coup prennent un sens un peu plus... comment je dirais ça, pétillant. Allez, c'est le mot que je vais utiliser. En tout cas, c'est un très beau cadeau d'anniversaire, de Noël. Voilà, je vous invite à aller feuilleter au moins déjà ce livre et à l'acheter, évidemment. Les fables de la Fontanelle. À quoi riment nos vies sexuelles ? Par Sophie Fontanelle, aux éditions Robert Laffont. La fable de l'homme qui se trompait sur les femmes. Il dit « Les filles sont des putes. » Mais ça ne doit pas être tant que ça une question d'argent. Aucune ne veut sa flûte. On va passer à un petit morceau de musique. Alors la transition là, elle est un peu waouh.
Capillotracté.
Oh, ouais, wow. Un peu. Mais comme on parlait de ministre de l'Intérieur, finalement, il y a quelque chose qui va se tenir là et qui est un morceau que j'aime particulièrement.
Sexe appeal.
Canal B.
Alors oui, Benjamin Bechler, on sent qu'on vous a perdu pendant le morceau.
J'étais à fond. C'est très efficace comme morceau de musique.
C'est efficace, hein. Donc c'était les
Sexy Sushi.
Sexy Sushi. Avec Sex Appeal, évidemment. Moi, j'adore ce morceau. Je trouve que j'avais envie d'un petit chaud-froid musical cette semaine. Mmh. Je ne dois pas cacher que je préfère largement le deuxième morceau qui... a quand même une dose d'humour qui est très 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 puissante.
Ah oui, très puissante.
Et oui, à propos de puissance, je crois que c'est l'heure de la deuxième partie de votre lecture.
Ah bah, carrément, bah j'y vais.
Alors, il serait temps de se mettre un peu au turbin, mon Pierre.
Merde, ça ne marche pas. Y a rien qui vient. J'ai l'impression de patiner, de faire tout le temps la même chose. Souvent, quand j'écris, je me laisse emporter. Je m'arrête quand je sens que quelque chose sonne faux, comme dans un morceau de musique. Sauf que là, tout sonne faux. Je n'arrivais pas à m'endormir. La scène avec Antoine me tourne encore et encore dans la tête. Alors j'ai fait ce que je fais dans ces cas-là. Non, pas l'activité avec un Kleenex. L'autre activité pour laquelle j'ai besoin de mes mains. Je suis allé sur mon profil de fanfiction et je me suis mis à écrire. Voilà 1 an et demi que j'ai commencé les aventures de Max et Grogir. Au début, j'ai voulu choisir un héros connu comme dans les vrais fanfics. Sauf que je n'en trouvais aucun qui me plaisait, à part peut-être ceux de Game of Thrones, mais tout le monde les prenait. Je me suis dit, tant pis, j'en invente un. Max et Grogir et sa jeune protégée Chloé Rembrandt, la princesse injustement dépouillée de son titre, sont arrivées comme ça. La série a compté jusqu'à 87 lecteurs fidèles, garde 43 abonnés, dont 14 fans purs et durs. Je sais, c'est pas dingue comme statistique, mais quand je pense à tous ces gens que je connais pas et qui aiment mes histoires, ça me donne un tout petit peu le vertige quand même. Mon épisode préféré reste Max et Grogir contre Chloé. À la fin de la première saison, oui, j'ai découpé ça en saison, je trouve que ça marche mieux. Où Max, drogué par un alchimiste, prend la jeune femme pour une traîtresse et s'apprête à lui passer son épée à travers le corps. Au moment de la tuer, il sent une larme d'elle couler sur sa bouche et ce quasi-baiser le tire brusquement de sa catalepsie. « C'est tellement beau et chaud quand même !» a réagi Maud 314. « Meilleur épisode jamais, ça marcherait trop au cinéma !» a commenté XXMiss 33. « J'en ai le cœur qui bat !» a ajouté un autre lecteur avec tout un tas d'émoticônes. « Pourquoi ils ne vont pas plus loin ?» a quand même critiqué Fer de Lance du 16. « Genre, ils s'embrassent même pas. » Mais de toute façon, ils critiquent tout le temps mes histoires. « Au fait, tu as remarqué que tes persos changent de nom tout le temps ? C'est exprès ou quoi ?»« Non mais de quoi je me mêle ?» J'ai beaucoup écrit pendant les confinements, pendant les épididymites aussi. C'est d'ailleurs peut-être un peu à cause d'elles que les rapports entre Max et Chloé restent si sages. Penser à des trucs plus hard que des doigts qui s'effleurent, des cœurs qui cognent ou de longs soupirs à fendre l'âme, ça me collait parfois la trique et aussi agréable que ce soit sur le moment, je le payais 3 minutes plus tard par un pic de douleur dans les étages d'en bas. Mais ce soir, j'en ai, pour ainsi dire, plein les couilles de ces histoires de gamins. Je n'y arrive plus à y croire. Je trouve ça pénible à écrire et ça doit l'être encore plus à lire. Marre de ça, marre de moi et de mes histoires à la guimauve. Je me recouche, furieux, incapable de dormir, jusqu'à ce qu'Antoine pénètre dans ma chambre. Alors, elle est trop petite ? Si petite ? Antoine est une fille avec des seins très doux et ronds et fermes, qu'il place au-dessus de ma tête. Je ne peux pas bouger. Elle m'étouffe. Il m'étouffe et j'adore ça. Mon sexe est dur, de brèves décharges le parcours. « Petit, 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 où es-tu ? Viens là, mon tout petit !» Antoine baisse les lèvres vers mon ventre, parcourt la ligne qui relie mon sternum et mon nombril. Sa langue s'aventure autour de mon gland, aspire doucement. J'ai beau savoir que c'est un garçon dans le corps d'une fille, je ne peux retenir mon plaisir. Quelque chose jaillit en moi, coule chaud sur mon ventre. Je me relève, honteux, tourmenté. Les draps sont tachés et gluants. Je déteste les mots pollution nocturne. Pire que ça, j'ai rêvé d'Antoine. Max et Grogir et le dernier combat, partie 2. Récit Greg Litt.
Max ! Max ! Vous êtes là ?
Murmura Chloé d'une voix tendue. Le château de Carnouillac était silencieux. Un silence de mort. Les corps jonchaient le sol et les bottes souples de la jeune femme collaient au carrelage sanglant. Plus rien ne bougeait. Par l'escalier de pierre, elle atteignit la plus haute salle du donjon circulaire. Les signes montraient que le combat avait été d'une violence rare. Lorsque son pied cogna contre une tête détachée de son tronc, qui roula jusqu'au mur, elle eut un walker. Mais le spectacle le plus terrible l'attendait au beau milieu de la pièce. Max et Grogir gisaient là, baignant dans son sang.
Bien, merci pour ces deux lectures dominicales, Benjamin. C'est vraiment le rendez-vous du curé du cul.
C'est ça. Oui. Donc la prochaine fois, je vous lirai un extrait de la Bible. Les extraits les plus chauds de la Bible.
Alors peut-être l'Ancien Testament, hein, parce que je crois que c'est quand même le plus...
Olé, olé.
Olé, olé, en tout cas en termes de meurtre. Après, est-ce qu'en termes de sexualité ? C'est un peu comme la série Game of Thrones.
Meurtres et du cul.
Des meurtres et du cul.
Ça fait vendre, ça.
Vendre. Et d'ailleurs, à propos de meurtres et du cul, alors là, vous allez voir.
Oh là là.
Attention.
Ah là là.
Je vais regarder une série sur Netflix sur les époux Fourniret. Et ben, ça fait flipper, le meurtre et le cul. C'est pas... le cul peut être cool, mais il y a des moments où le cul est vraiment pervers et surtout diabolique. C'est-à-dire que c'est donc un couple assez méchant. La grosse
analyse. Je pense que c'est l'adjectif qui convient. Ouh là là, oui. Qu'est-ce qu'ils sont méchants.
Ils sont pas très très sympas. Et lui, donc il était en prison, il reçoit des courriers de Monique qu'il chauffe un peu, etc. Et puis en fait, Monique a 132 de QI. Elle se faisait quand même globalement passer pour la victime du méchant Michel. Mais finalement, ne serait-ce point la méchante Monique, en tout cas, depuis que Michel est sorti de prison et que Monique est devenue sa compagne, eh bien, il est passé quand même au meurtre. Voilà, puisqu'avant, c'était pas vraiment génial ce qu'il faisait. Hein. Il était quand même depuis 8 ans en taule pour violence sexuelle, etc., agression sexuelle. Là, il passe à la vitesse supérieure grâce à Momo. Et en fait, c'est monstrueux cette histoire parce que le soir du premier meurtre, donc de la première victime vraiment de Michel Fourniret, eh bien, ils font l'amour, totalement excités parce qu'ils viennent de traverser ensemble. Et 9 mois plus tard, ding-dong, mais qui sonne à la porte ? C'est la livraison de la petite cigogne maléfique qui leur apporte un fils. Voilà. Alors,
une pensée pour lui.
Une pensée pour cet enfant qui, en plus, était évidemment toujours associé au rapt des autres jeunes filles. Parce qu'on ne se méfie jamais d'une camionnette blanche, d'une femme avec un bébé. Eh bien, voilà le message que je vais vous laisser pour votre nuit.
Il s'en va bien dormir.
Méfiez-vous.
Super. Merci Agathe.
Méfiez-vous des camionnettes blanches.
On aime les belles
Inflation,
histoires.
Inflation, cancer, Fourniret. Ça va en ce moment ?
Mais ça finit pas comme dans un conte de fées ?
Ah ben, ça dépend pour qui. Ça, non, ça ne finit pas tellement comme ça. Et voilà, non, mais cette série est très bien réalisée. Alors évidemment, on a toujours une petite attirance pour le morbide et évidemment. Toutes ces choses-là. Ça nous fait toujours un peu triper. J'espère pas triper au point de... Je vois dans votre regard de se caresser le boob pendant qu'on regarde cette série-là. Sinon, si c'est le cas... Je vous invite à consulter.
Vite, très vite.
Faites-vous le palper les seins et glissez comme ça au médecin. Je me branle devant Fourniret. Voilà, ça passera mieux d'ailleurs.
Mais du coup, est-ce qu'on parle du fils Fourniret, qu'est-il devenu ? Est-ce que psychologiquement, tout va bien ?
Eh bien, je n'ai pas fait tous les épisodes en entier, je ne sais pas. Ah. Je ne crois pas, parce que là, que c'est vraiment posé sur les parents.
Ah oui.
Mais... Et elle, qui a d'ailleurs passé un petit temps dans la maison d'arrêt des femmes de Rennes. Salut Monique, peut-être elle écoutait Canal B. Mon Dieu.
Elle va nous écrire.
Mon Dieu, elle va nous écrire. Elle aime bien écrire. Oh là là. Bon, en tout cas, voilà. C'est pour vous souhaiter là-dessus. Eh bien.
Bah oui. Qu'est-ce que tu vas nous souhaiter là-dessus?
Je me méfie, hein. Franchement.
Oui, une très belle nuit. Je glousse. C'est insupportable. Je suis désolée. Non. Je n'arrive pas à m'empêcher de glousser. Bon, si vous avez envie, dans la foulée de Bonjour, je vous invite plutôt à aller regarder, bien sûr, des chaînes de porno plutôt militants, engagés, plutôt que d'aller regarder peut-être les Fournirets. Mais s'il y a un moment d'ennui...
Ou Sex Education, cette dernière saison sûr, formidable, où il est question justement de palpage
pour
les plus jeunes.
Eh bien voilà.
Oui. Tout et à là-dessus, fait. Le couperet des Fournirets va tomber.
Oh mon Dieu, oh là là. Eh bien, c'est un dimanche qui se termine en fanfare, on peut le dire vivement dimanche prochain, n'est-ce pas? Puisqu'on se retrouvera à moins que, peut-être on nous vire de la radio, mais après cette émission, c'est possible, on ne sait pas. La vie ne tient qu'à un fil, alors d'ici à notre revoyure auditive, eh bien... Prenez soin de votre fil, prenez soin de votre vie. Huilez bien ce fil de moments de plaisir. Ça ne passe pas forcément que par des doigts dans le cul. Ça peut aussi passer par des petites choses comme ça du quotidien.
Lire des livres.
Lire des livres, palper des choses. Faites-vous le plaisir du quotidien et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup Chloé, infiniment pour cette visite.
Merci
Benjamin pour cette visite, votre présence. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Dimanche 23h, et d'ici là, passez une foutrement belle semaine sur Canal B. Bon, je l'ai fait toute seule, hein, sur ce coup-là. Merci les gars. Allez, adieu.